Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Bienvenue sur Build Yourself, votre ressource pour tout ce qui est marketing en ligne et podcasting. Je suis votre hôte, Safia, ancienne juriste devenue entrepreneur du web. Je vous aide à faire du podcast le meilleur atout de votre business, un support pour atteindre plus de monde et devenir la référence dans votre domaine. Téléchargez mon guide gratuit pour découvrir les trois étapes indispensables pour lancer son podcast, disponible à l'adresse safiagourari.fr/guide. Et maintenant, abonnez-vous pour ne pas manquer un épisode, installez-vous confortablement et préparez-vous à enfin changer les choses. En 2021, on dit calmos au syndrome de l'imposteur. On lui dit pas bye bye ou adieu parce que malheureusement, il ne partira jamais. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est l'atténuer, c'est vivre avec et surtout aller au bout de nos projets, nos rêves et toutes nos ambitions. Malgré cette petite voix, ces petites pensées qui nous font parfois ralentir, qui veulent nous faire faire demi-tour aussi des fois, mais malgré ça, on va aller au bout. Alors, pour parler du syndrome de l'imposteur, j'ai pensé que ce serait intéressant de faire venir Ayette Lamouri, que vous connaissez peut-être sous le pseudo Mentalpreneur. Le syndrome de l'imposteur, c'est un peu sa spécialité, son cheval de bataille. Elle a envie d'aider un maximum d'entrepreneurs à vivre avec et à aller au bout de leurs ambitions. Donc voilà, je me suis dit qu'il n'y avait pas mieux placé pour venir aborder tout ça et j'espère que cet épisode va vous permettre de débloquer la situation et de vous donner envie de persévérer par rapport à toutes les difficultés que vous allez rencontrer cette année parce qu'il y en aura forcément. L'entrepreneuriat, c'est jamais un long fleuve tranquille. Mais j'espère que cet épisode va vous pousser à la réflexion et vous donner la force d'aller au bout de tout ce que vous avez envie de faire. Donc le programme de cet épisode, c'est bien évidemment qui est Ayette, quel est son parcours, qui, vous allez voir, est très atypique. Ensuite, on va définir clairement ce qu'est le syndrome de l'imposteur, pourquoi elle a décidé de se focus sur ça. Elle va nous partager les signes, les effets également du syndrome de l'imposteur et surtout comment apprendre à le gérer et à vivre avec. Donc sans plus attendre, eh bien, je vous laisse avec notre échange. Salut Ayette, bienvenue dans Build Yourself, je suis très contente de t'accueillir aujourd'hui.
Merci Safia, bienvenue.
Eh bien écoute, on va parler d'un sujet hyper important avec lequel chaque entrepreneur bataille un peu, qui est le syndrome de l'imposteur. Mais avant, je voulais en savoir plus sur toi, sur ton parcours, oui. Sur ce que tu as fait jusqu'ici et ce que tu fais maintenant.
Alors moi, je suis ce qu'on appelle une switcheuse professionnelle. C'est-à-dire que à l'origine, je suis juriste, donc c'était mes premières études. J'ai pratiqué quelques années dans le monde du droit. Et puis ensuite, ça me parlait pas trop et je me suis dit je vais me lancer dans quelque chose qui a du sens. Et je me suis lancée dans quelque chose de complètement différent, l'enseignement. Donc là, je suis passée du privé au public. Et c'est pareil, j'ai découvert le monde de l'enseignement, mais d'un point de vue des coulisses, et c'était très très passionnant. Et puis après, j'ai eu mes enfants, et ça a remis en question pas mal de choses, et puis J'ai eu d'autres expériences professionnelles. J'ai notamment été taxi à Lyon. Donc ça, c'est un... Oh ouais, c'est mon frère qui m'a embarqué là-dedans. Mais j'aime bien tester plein de métiers. Et puis, le dernier en date, c'est rédactrice web. Donc, j'ai toujours été attirée par le web. Et là, j'ai voulu tester le monde du web. J'aime bien les mots. Donc, j'ai dit, allez, pourquoi pas la rédaction web. Je me suis formée et ça fait 2 ans que je fais ça. Et voilà.
Ce que j'apprécie avec toi, c'est que j'ai l'impression que tu n'as pas peur de commencer quelque chose de nouveau, de partir à zéro et de réapprendre une nouvelle compétence, un nouveau métier ou quelque chose comme ça.
Oh oui, exactement, tout à fait. En fait, c'est la vie qui a fait que je me suis jamais reposée sur mes lauriers parce que j'ai pas eu beaucoup de facilité, on va dire, d'un point de vue environnemental. Donc, on m'a toujours poussée pour que j'aille faire autre chose. Donc, en fait, j'ai pris l'habitude, ouais, de switcher. C'est devenu un état, c'est devenu une façon de vivre, en fait, et j'adore ça.
Et c'est important parce que je trouve finalement que ton message là, c'est le fait que tu suives ton intuition et tes envies du moment. Et c'est quelque chose qu'on ne fait pas assez, je trouve.
Exactement, tout à fait. Oui, c'est ça. Je pense que, surtout en France, en fait, on critique beaucoup les personnes qui switchent énormément. Donc, par exemple, quand tu présentes un CV et que tu n'as que 1 an d'expérience dans tel domaine ou 1 an ou 2 ans, on dit, bon, cette personne, elle n'est pas très stable. C'est
exactement.
Dangereux. Voilà, c'est dangereux. Et alors que non, pas du tout. Il y a toujours un fil conducteur. C'est juste que la personne ne veut pas se mettre en dernier. Elle se met en premier et donc elle choisit les opportunités en fonction d'elle et non pas en fonction de ce que veut la société.
C'est vrai. Je pense que c'est une vision française, hein, mais comme toi, je vois pas ça comme un défaut ou un signe d'instabilité ou tu vois.
Voilà, pas du tout. Bon, mais c'est vrai que cet état-là, en fait, il est très bien accueilli chez les entrepreneurs. En fait, dans l'entrepreneuriat, c'est le seul domaine où je me suis sentie accueillie comme j'étais. C'est-à-dire que quand je dis à mes copines, j'ai fait ça, mais c'est génial. Enfin, c'est la première fois qu'on me dit ça, quoi. Avant, j'allais dans un bureau de recrutement, on me disait, mais pourquoi vous n'êtes pas restée dans cette boîte? C'est bizarre. Donc voilà.
Il y a des mentalités qui ont besoin d'un peu de changement, j'ai envie de dire.
Oui, tout à fait. Surtout en ce moment.
Ouais, c'est clair. Bon, alors aujourd'hui, on est là pour parler de syndrome de l'imposteur. Alors, pour commencer, on peut juste donner une petite définition pour qu'au moins tout le monde sache ce que c'est. Parce que je suis sûre qu'il y a plein de gens qui le vivent, mais qui ne savent pas que ça a une signification et qu'il y a énormément de gens qui sont touchés par ça.
Exactement. Alors, pour moi, je donne ma définition. Hein, pour moi, ça peut prendre différentes formes. Mais globalement, c'est ce sentiment de se sentir illégitime dans ce qu'on fait. Voilà. Donc, ça peut être soit on n'a pas de compétences dans un domaine qui nous intéresse, on a envie de se lancer et on se dit, mais non, c'est pas possible, j'y connais absolument rien, donc j'y vais pas. Soit on a des compétences et on se dit, mais pourquoi ça serait moi qui réussirais dans mon propre domaine de compétences alors qu'on est complètement expert, hein. Ou alors, ça peut être carrément quelqu'un qui est loin dans les challenges et qui, à chaque nouveau challenge, se demande pourquoi cette fois-ci, elle va réussir, alors qu'elle a toujours tout réussi, en fait. Donc, voilà, le point commun de tout ça, c'est ce sentiment d'illégitimité. On se sent pas légitime, on se sent pas à notre place, on pense qu'on va être rejeté. Et voilà, le syndrome de l'imposteur, c'est comme son nom l'indique, on se sent imposteur, on pense qu'on ment, on pense qu'on trompe les autres. Et c'est quelque chose d'assez désagréable.
Ouais, c'est clair. Alors, je t'ai fait venir pour parler de ça parce que c'est un peu ta spécialité, le syndrome de l'imposteur. Et du coup, je voulais te demander pourquoi ça te tient à cœur et pourquoi tu as décidé de l'aborder en profondeur.
Alors moi, ça fait 2 ans que je suis sur le web et que je suis dans le monde, dans l'entrepreneuriat. Alors, j'ai été freelance, mais j'ai côtoyé de près les entrepreneurs, les web entrepreneurs. Et j'ai remarqué que c'était toujours ça qui revenait, en fait. Alors, j'étais moi en tant qu'accompagnatrice, donc soit en tant qu'amie, soit dans mon domaine d'expertise, et à chaque fois qu'il y avait quelque chose un nouveau challenge qui se présentait, et ben la personne, je pense j'y arriverai pas, non mais c'est pas la peine, non mais ce message y passera pas, non mais c'est pas la peine que je me lance dans ce truc et tout. Donc et moi j'étais de l'extérieur et je leur disais mais non pas du tout, ce que toi tu vois de toi, moi je le vois pas, je vois quelque chose de complètement différent. Donc, je me suis intéressée à ce syndrome-là parce que déjà, personnellement, je l'ai vécu. Donc, et je le vis toujours, hein, je veux dire, je pense pas qu'on puisse en débarrasser définitivement, sinon ça se saurait. Mais c'est surtout que je pense que c'est le blocage numéro un des entrepreneurs. Voilà, donc qu'on soit lancé ou pas encore, en fait, on le retrouve à tous les stades de l'entrepreneuriat, et c'est quelque chose de complètement humain et quelque chose de complètement normal. Voilà, ça, je veux le préciser, c'est pas quelque chose d'anormal, en fait, de se sentir illégitime, c'est complètement normal. Et heureusement, parce que sinon, des fois, on partirait un petit peu trop confiant, et voilà.
C'est vrai que ça fait redescendre un peu sur terre pour le coup, peut-être un peu trop, mais bon, en tout cas tu le dis très bien, c'est une chose qui nous accompagne tout au long de notre vie et avec laquelle on va devoir faire, en gros, peu importe le niveau où on en est, parce que ok, on va parvenir à surmonter des choses, finalement le syndrome de l'imposteur il va nous rattraper sur d'autres éléments avec d'autres pensées, etc. Est-ce que tu as des conseils ou des signes à nous donner qui indique qu'on est dans une situation où le syndrome de l'imposteur nous bloque?
Alors, le signe numéro un, c'est la difficulté de passer à l'action. C'est-à-dire que quand on a une idée, on a quelque chose qui nous anime, on a envie de faire quelque chose, et qu'on procrastine, on repousse ce qui est désagréable, et ben alors là, ça veut dire qu'on est dans ce syndrome-là. C'est-à-dire qu'on a des difficultés à passer à l'action, premièrement. Deuxièmement, on surinvestit dans la formation. Donc, on se dit, attends, avant que je passe à l'action, il faut que je fasse au moins 6 formations, sinon c'est pas possible. Voilà. Et ça, c'est quelque chose, je dirais même, de féminin. Parce qu'en fait, j'ai remarqué que par rapport aux garçons, en fait, les garçons étaient un peu plus culottés que les filles. Et c'est quelque chose que j'ai constaté. Et que les filles étaient un peu première de la classe, un peu on veut tout bien faire, on veut tout, voilà. Et donc les filles sont un peu plus touchées que les garçons, et les garçons on les trouve, enfin on les voit comme des opportunistes. Dans la plupart des cas, ben ils se lancent, en fait, et ils ont moins peur du ridicule, je trouve. Les filles, on est beaucoup dans l'estime de nous, on est beaucoup voilà, il faut qu'on soit légitime, il faut qu'on arrive à convaincre. Et puis, ben, on va se surinvestir dans la formation. Et voilà, c'est comme ça qu'en fait, on voit que ben, s'il n'y a pas de passage à l'action concrète, alors là, c'est pas très bon signe, on va dire. Le fait de chercher aussi, tu sais, la validation extérieure. Voilà, donc, alors, c'est normal hein, de chercher la validation extérieure. Je veux dire, on est des êtres sociaux, on peut pas déambuler comme ça tout seul. Mais ce que je veux dire, c'est que comme on a grandi, en fait, on a été formaté dans un système scolaire où c'est la note qui parle. Si on a été salarié avant, bah, c'était le salaire qui parlait, parce que finalement, quand on te paye un salaire, c'est qu'on reconnaît ta compétence. Là, dans l'entrepreneuriat, à part vendre, il n'y a rien qui reconnaît ta compétence, quoi, entre guillemets. Donc, c'est assez compliqué, en fait, de se lancer sans système de validation extérieure.
C'est vrai. Et tu sais, c'est drôle parce que j'ai un groupe Facebook pour les gens qui écoutent le podcast, donc pour mes auditrices. Et ce matin, justement, il y a une personne qui a mis un mot sur le groupe en disant qu'en fait, elle avait envie de se lancer, mais qu'elle avait peur. Peur de vendre, peur de pas bien faire, etc. Et je lui ai dit, ouais, c'est quoi la pire chose finalement qui peut t'arriver si tu te lances? Elle a dit, c'est la peur des autres, qu'on me dise que je suis nulle, tu vois, qu'on me juge et tout. Donc c'est quelque chose qui est hyper présent chez les femmes, cette peur des autres et du jugement.
Oui, c'est vrai. Et surtout, en fait, alors, la fille n'a pas été, en fait, la femme n'a pas été éduquée comme le garçon. Ça, c'est un fait, en fait. Je veux dire, qu'on soit d'accord, pas d'accord, là, on parle de résultats, et la fille n'a pas été élevé comme le garçon, c'est-à-dire le garçon, il va être élevé dans la prise de risque, vas-y, saute, fais ce que tu veux, alors que la femme, non, c'est tiens-toi droite, ne fais pas de vagues, voilà, ne bouge pas trop, sois une gentille fille, et du coup, en fait, elle est conditionnée à rester comme ça. Et on se demande pourquoi il n'y a pas beaucoup de femmes dans l'entrepreneuriat, mais c'est en partie à cause de ça. C'est son éducation, en fait, qui l'a formatée et qui la prédestine, en fait, à avoir plus que les autres le syndrome de l'imposteur. C'est pas une fatalité, c'est juste que en prendre conscience, ça permet de travailler dessus.
Ouais, complètement. Est-ce que tu peux me parler un peu de ton expérience personnelle avec le syndrome de l'imposteur? Dans quelle situation tu l'as rencontré ou tu le rencontres le plus?
Alors, déjà, pour moi, le syndrome de l'imposteur, il a commencé le jour où j'ai mis les, pieds dans le monde du travail, le vrai monde du travail, hein, pas les jobs d'été, dans le vrai monde du travail. Et là, je me suis dit, mais attends, j'ai eu un diplôme, ok, on me paye, ok, mais c'est pas possible, je suis pas à la hauteur. Surtout que, à la sortie de mes études, j'ai été embauchée dans un des plus grands groupes internationaux d'avocats à Paris, à la Défense. Je veux dire, le truc, quand tu sors de la fac, personne, normalement, ne va dans ce genre de groupe.
C'est clair.
Alors, je me suis dit, il y a eu une erreur de casting monumentale. Et je me suis dit, un jour, on va me découvrir.
Ouais.
Et ça me mettait une pression de malade. Enfin, vraiment, vraiment, ça me mettait une pression. Et puis, ça me suivait comme une espèce d'ombre là qui me suivait, qui me disait, ah, tu vas voir, Ayette, demain, on va découvrir que t'es un imposteur. Tu vas voir. Enfin, voilà. Sauf que je n'avais pas conscience, en fait, de ce syndrome-là. Et c'est là où c'est important, parce que je pense qu'il y a plusieurs stades. Tu vois, il y a le fait d'ignorer complètement qu'on est dans un syndrome de l'imposteur. Parce que quand on est débutant, forcément, on est un peu imposteur. Et le patron qui te recrute, il n'est pas débile. Enfin, il sait que tu as beaucoup à apprendre. Et justement, il te recrute pour te former et même, je dirais, pour te formater pour son entreprise. Donc, c'est complètement normal d'être illégitime en premier lieu, quoi, quand on commence une aventure, en fait. C'est la formation tout au long de l'aventure qui va faire que. Et j'ai découvert ça, j'ai découvert que j'étais dans ce syndrome-là quand j'ai commencé ma vie de freelance il y a 2 ans. Où là, je me suis dit, mais attends, mais déjà, tu connais... Ah, j'avais rien, hein, ni Facebook, ni Insta, ni rien du tout. Et je veux me lancer sur le web quand même. Et là, je découvre absolument tout depuis le début. Et je me forme à la rédaction. Bon, je savais quand même écrire. Hein, c'était pas ça le sujet. Mais voilà, je me disais que... Tiens, et puis en fait, dans l'entrepreneuriat, on est beaucoup plus proche du développement personnel que dans les autres systèmes, en fait.
C'est vrai.
Dans le salariat, sauf s'il y a une politique propre au développement personnel, eh ben on voit jamais de développement personnel, en fait. Voilà. Alors que dans l'entrepreneuriat, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de textes, beaucoup de sources qui parlent de ça. Mais parce qu'on se débrouille entre nous, quoi. Enfin, donc, on s'entraide entre nous, on découvre. Il y a aussi des influences qui viennent d'ailleurs, donc des États-Unis, d'Angleterre, enfin voilà. Donc, surtout le monde du web, il est très, très ouvert. Et c'est là où j'ai dit, mais en fait, c'est ça, je suis une imposteur et c'est normal. Donc voilà, c'est là où j'ai commencé à l'appréhender. Mais c'est pas parce qu'on en a conscience que c'est terminé. Hein. Ça, c'est que le début. En fait, c'est que le début. Donc, on en prend conscience. C'est très important parce qu'on sait dans quel schéma mental on est. Et puis après, petit à petit, on expérimente parce qu'on peut pas en fait le vivre intellectuellement, ce truc. C'est quelque chose qu'on vit au quotidien et qu'on décortique au quotidien et qui n'est pas facile à appréhender au quotidien.
Ouais, c'est important de le mentionner. C'est vrai que. Bah, tu sais, ce qui est drôle, c'est que j'ai remarqué qu'il y avait plusieurs personnes qui donnaient un petit nom à leur syndrome de l'imposteur.
Ouais.
Parce que c'est une partie de même, en fait.
D'accord.
J'ai trouvé que c'était... Pensé. Ouais. Tu lui donnes un petit nom, et puis, bon, tu sais que là, c'est pas toi qui parle, et c'est, je sais pas, Roger, ou tu vois, René, et que c'est temporaire, et que tu peux changer, tu vois, ta façon de penser, quoi.
Alors, c'est vrai que je me parle souvent à moi-même. Alors, on prend un peu pour une folle, mais... Mais il y a quand même cette voix, en fait. Enfin, il y a ces deux voix. Et l'autre jour, je lisais un truc sur Insta qui est super intéressant. C'est qu'il disait que les parents, en fait, ce que disent les parents deviennent la petite voix intérieure. Tu vois ? Et
ouais.
Moi, j'irais encore plus loin. C'est que c'est pas, il n'y a pas que les parents, il y a la société. Donc, il y a les maîtres, les maîtresses, tout ça. Et tous ces gens-là, tous ces adultes, en fait, qui parlent à un enfant, eh ben, toutes ces voix-là deviennent ta petite voix intérieure quand tu grandis. Et c'est avec cette voix-là que tu vas te débattre pendant tout ton âge adulte, en fait. Et c'est ça qui est difficile parce que tu crois que c'est toi, mais non, c'est pas toi. c'est le moule dans lequel t'as grandi et il faut en sortir. Et voilà, pour avoir ce regard un peu extérieur, quoi.
Ouais, ça fait sens, hein, que ce sont les pensées de nos parents et de toutes les personnes qu'on a côtoyées, tu vois, pendant une certaine durée. Ça fait hyper sens. Je voulais te demander si tu avais des conseils pour apprendre à gérer, à vivre avec le syndrome de l'imposteur?
Alors, en fait, déjà, il faut savoir, en fait, comment il arrive. Moi, je me remémore, je me dis, c'est quoi le travail d'un entrepreneur? Parce que moi, là, je parle du syndrome d'imposteur dans l'entrepreneuriat en particulier. On dit, c'est quoi le travail d'un entrepreneur? Parce que si, en fait, on rappelle pas ce que c'est que le travail d'un entrepreneur, eh ben, on va se sentir imposteur tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le travail d'un entrepreneur, c'est de trouver une solution à un problème. D'accord? Donc, tu as un problème à résoudre et tu vas trouver, tu vas essayer de trouver la solution. Sauf que tu n'as aucun process pour trouver cette solution. Donc, tu vas forcément commettre des erreurs. Donc, il faut accepter, en fait, tout le cheminement de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que tu vas commencer, tu as repéré un problème, tu vas essayer de le résoudre, mais pour essayer de résoudre et proposer une solution, tu vas faire plein d'erreurs et donc tu vas être confronté à l'échec. Et c'est tout à fait normal. Tu ne pourras pas trouver du premier coup ta solution au problème de tes clients. C'est pas possible. Donc déjà, si tu sais que le travail de l'entrepreneur, c'est ça, eh ben tu vas te sentir beaucoup moins illégitime. Parce que et on n'est pas là, expert, et on arrive et bam, hop, c'est bon. Enfin, ça serait trop facile, quoi. Enfin, Safia, tu peux m'en dire, ouais. Tu peux m'en dire plus. Mais
complètement.
De ça.
Mais complètement. Et tu sais quoi? Je regardais un live de, je sais pas si tu connais Rimbuksimi, qui est une entrepreneure, et elle expliquait qu'en fait, le meilleur exemple, c'était Apple. Parce qu'ils nous vendent un iPhone à 1500 balles, et pourtant, t'as plein de mises à jour qui arrivent dans les mois qui suivent, parce que le téléphone, il est pas parfait quand il est vendu, en fait.
Exactement. Et le pire, c'est que le client est complètement d'accord. Mais alors, il faut être clair avec le client. C'est-à-dire avec ton client, avec ton prospect, t'es clair. C'est-à-dire que faut pas se faire passer pour quelqu'un que t'es pas. Si déjà tu te sens pas comme un expert, alors pourquoi tu fais comme si tu en étais un? Faut pas faire comme si tu en étais un. Là, faut être vraiment clair dès le départ. Si t'as un projet, il faut être transparent, en fait, avec les gens, avec ton audience. Tu dis, voilà, moi, je suis comme ça. Voilà où est-ce que j'ai envie d'arriver. Et il y a beaucoup d'exemples d'entrepreneurs qui sont partis de rien, qui ont été très clairs avec leur audience et qui cartonnent. Tu vois, Laurent Bria, par exemple, dans son blog, Apprendre la photo pas à pas, c'est comme ça qu'il a commencé. C'était pas un fan de photos. Mais il était très clair avec son audience et il a appris avec son audience et il y avait aucun problème là-dessus. Le problème, c'est quand on se fait passer pour quelqu'un qu'on n'est pas. Et en fait, en réalité, c'est pas le fait de se sentir imposteur, c'est qu'on a peur de le devenir. Mais à partir du moment où tu as une démarche de progressivité, donc il y a ça, c'est aussi une deuxième astuce, c'est que le problème de du syndrome de l'imposteur, c'est qu'on est dans une vision qui est binaire. C'est-à-dire, c'est blanc, c'est noir, c'est bien, c'est pas bien, je suis expert, je suis nul, enfin voilà. Donc ça, c'est pas en fait une démarche qui va aider à sortir du syndrome d'imposteur parce que on en sort de manière progressive. Il faut que tu vois en fait ta progression comme un escalier que tu montes pas à pas, pas à pas, pas à pas. Donc déjà, si t'es clair avec toi-même, t'es clair avec ton public, eh ben c'est bon, allez hop, on peut faire pas à pas tous les jours, on peut faire un pas de plus et forcément tu vas progresser. Ça, c'est obligatoire quel que soit le temps que tu passes en fait sur ton projet. Et ça, c'est quelque chose, tu vois, cette progression, c'est quelque chose que t'apprends quand tu deviens prof. On t'apprend, en fait, à organiser tes cours de manière progressive pour faire progresser l'élève tout doucement. Et l'entrepreneur, c'est ça. Malheureusement, il n'a pas de prof, ou alors s'il se paye un coach ou voilà un mentor ou quelque chose comme ça, eh ben, il va avoir conscience que eh ben, tous les jours, il va gagner en compétences et plus il va gagner en compétences, moins il va se sentir imposteur. L'autre jour, j'avais une discussion avec une amie entrepreneur et on parlait de savoir vendre, etc. Et elle me disait, mais tu sais, quand tu sais pas vendre, c'est que ton produit, tu le maîtrises pas, en fait. C'est que tu maîtrises tellement peu ton truc que c'est normal que tu peux pas vendre, en fait. C'est pas une compétence qui tombe du ciel, en fait. Ça demande énormément de travail, pour maîtriser ce que tu veux vendre, pour pouvoir en parler comme si c'était de l'eau claire, quoi. Donc, il y a aussi d'autres problèmes par rapport au web entrepreneuriat, c'est qu'il y a beaucoup de mensonges qui circulent sur le web. C'est-à-dire qu'on pense qu'on va pouvoir monter un business comme ça en 2 secondes, on va pouvoir cartonner comme ça en 2 secondes, mais ça, c'est une illusion totale. C'est vrai que si j'avais pas travaillé dans les coulisses en tant que rédactrice web, j'aurais pas forcément compris. Parce que les promesses sont tellement fortes que t'as l'impression que tu peux réussir comme ça, mais c'est pas possible. Tu sais, juste pour monter un blog, c'est quand même, enfin, c'est un truc de fou, quoi. C'est pas, tu viens pas, tu débarques pas, tu peux pas manipuler les gens comme ça. Il faut quand même, voilà. Pour moi, si tu donnes beaucoup, forcément un jour tu vas recevoir. Ça, c'est sûr et certain. Ça, c'est clair. Et si t'es authentique avec toi-même, tu seras authentique avec les autres et les gens le sentent, ça. Ils sentent. On peut pas tromper des gens et on peut pas se tromper soi-même. Voilà. Donc, le plus grand conseil à donner, c'est essayer d'épurer. Enfin, épurez-vous vous-même et soyez vous-même. De toute façon, il y a une expression qui dit, n'essayez pas de copier, enfin, n'essayez pas d'imiter les autres personnalités sont déjà prises, ou je sais plus exactement ce que c'est. Voilà, c'est ça. Eh ben, soyez vous-même. Il y a personne qui peut vous copier. Donc, déjà, là, déjà, en étant vous-même, déjà, vous serez singulier, vous serez singulière, personne ne sera à votre hauteur, en fait, en gros. Et ensuite, développer progressivement. Et je dis vraiment pas à pas. C'est-à-dire que, le problème du syndrome de l'imposteur, c'est que généralement on est trop perfectionniste et en fait on se met la barrière très très haut. Et donc comme la barrière elle est trop haute, bah forcément, hein, je veux dire, à moins d'être un sportif de très haut niveau, on peut pas sauter la barrière, quoi, tu vois. Sauf que généralement on n'est pas sportif de haut niveau. Et voilà. Et donc il faut accepter ça, je dirais, avec humilité, tu vois, le niveau qu'on a. Et fixe-toi un délai, voilà, d'ici 2 ans, t'aimerais bien voir ça. Et puis après, oublie un peu ton objectif pour pas qu'il te mette trop la pression. Et fixe-toi des petits objectifs, tu vois, mensuels. Et après, regarde et tu mesures ta progression. Et puis voilà. Le problème de la petite voix, c'est qu'elle est majoritairement autocritique. Tu vois, c'est-à-dire qu'on a une petite voix dans notre tête. Et cette petite voix, c'est malheureusement le reflet de notre éducation. Que ce soit une éducation parentale ou une éducation scolaire ou environnementale. Voilà. Quand on a eu l'habitude, en fait, d'être critiqué, on pense que le fait d'être critiqué, de s'auto-critiquer, c'est ce qui va nous pousser à monter en compétences, etc. Alors qu'en fait, non. L'autocritique, quand elle est excessive, et c'est ce qui se passe dans le syndrome de l'imposteur, eh ben, en fait, elle nous fait perdre tous les moyens. Elle épuise mentalement. Tu vois, c'est très épuisant. Et ce qu'il faut mettre en place progressivement, et ça, c'est quand je propose ça par rapport au syndrome de l'imposteur, c'est ce qui est le plus bizarre à accepter, c'est de l'empathie envers soi-même. Je sais que ça a l'air un peu niais, un peu voilà, mais franchement, je vous le dis, si vous ne vous aimez pas vous-même, personne le fera à votre place, en fait. C'est que si vous vous aimez vous, et c'est pas gagné du jour au lendemain, c'est tous les jours, vous vous aimez un petit peu plus, vous appréciez un petit peu plus, ça veut pas dire que vous allez tomber dans le narcissisme. Généralement, on tombe pas dans le narcissisme quand on est comme ça. C'est plutôt le contraire, en fait. On a du mal à s'aimer, donc c'est un peu plus compliqué. Mais on tombera pas dans le narcissisme, et après, petit à petit, on va s'aimer un peu plus et on va se sentir légitime un peu plus. Parce qu'on va partir de notre niveau pour atteindre un niveau, le vôtre. Il n'y a pas de meilleur niveau, de niveau excellent, de niveau. Il n'y a pas de note, c'est terminé. Là, on est dans la vraie vie là. Il y a pas. C'est votre note à vous en fait. On n'est pas dans la. On n'est plus chez Monsieur Machin et ou Maîtresse Machin. Ça c'est terminé. Donc, si vous ne vous faites pas du bien, mais personne ne fera pour vous en fait. Et on aura beau essayer de vous convaincre, il y a des gens qui vous aiment, mais on aura beau essayer de vous convaincre, si vous en êtes pas convaincu vous-même. Ben, personne, en fait, n'arrivera à vous convaincre. Voilà.
C'est vrai. Et tu vois, ça fait partie de l'entrepreneuriat, ce gros travail qu'on a à faire sur nous, finalement. Chose qu'on ne fait pas quand on est salarié, parce qu'on est dans notre train-train, on sait qu'on travaille pour telle entreprise, machin. Et on n'est pas... Il n'y a pas autant de challenge, on va dire, d'un point de vue perso, que quand on a notre propre entreprise. Donc, c'est vrai que c'est un truc chez les entrepreneurs qui a une place énorme, tout ce qui est mindset.
Exactement, tout à fait, parce que on est pris en charge par personne. On est responsable à 100% de ce qu'on fait, quel que soit le niveau d'entrepreneuriat. Hein, on n'est pas obligé de gagner un CA à 6 chiffres pour se sentir légitime. C'est pas ça. Je veux dire, ça aussi, j'ai découvert, tu vois, qu'il y avait plusieurs sortes de business. On a l'impression, quand on débarque sur le web, que si tu fais pas 6 chiffres, c'est pas normal, tu vois. Mais non, C'est quoi ta vie? C'est part de toi. Qu'est-ce que toi, tu veux, en fait? Est-ce que tu as des enfants? D'accord. Par exemple, je parle des femmes, là. Les femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, généralement, c'est vers la trentaine, tu vois, parce qu'il y a justement les enfants qui arrivent et ça pose problème au niveau du salariat. Le problème, c'est quoi? C'est qu'ils arrivent sur Internet et qu'en face, ils trouvent des entrepreneurs qui, eux, bah, c'est des mecs qui, eux, sont célibataires, qui ont la vingtaine et qui ont tout le temps à consacrer à leur business. Et alors, les filles, elles se disent, mais moi, j'y arriverai jamais. Mais attends, mais il faut que je fais quoi? La nuit, je dors pas, en fait, pour faire six chiffres. Mais c'est quoi, en fait? T'as vraiment envie de faire six chiffres? Pour faire quoi, en fait? Tu vois? Donc, partir de ce qu'on a envie, vraiment. Et c'est difficile, hein, de partir de soi-même, parce que on a toujours été calibré vers l'extérieur. Tu vois, on a toujours été calibré vers l'extérieur. Toujours, regarde d'abord ce que les autres pensent, regarde d'abord ce que les autres pensent. Non, mais attends, mais toi d'abord. Et voilà. Et tout le travail, et ce qui est génial dans l'entrepreneuriat, c'est que ça nous force, en fait, à revenir vers ce qu'on veut vraiment. Et à définir notre offre à nous. Est-ce que ces valeurs nous correspondent? Non, ça nous correspond pas. Bon, bah, j'y vais pas. Voilà. Vraiment, ce travail d'introspection, prenez le temps de le faire. Des fois, vous allez travailler 2 heures dans la semaine parce qu'il y a un tel travail psychologique qui vous empêche en fait de travailler sur votre ordinateur. Bah, c'est nécessaire de passer par ce travail psychologique-là. La semaine d'après, vous serez super efficace. Et voilà, prenez le temps en fait d'être confronté à vos peurs. Et ça va être du fight mental, hein, ça c'est sûr. Ça, c'est clair. C'est-à-dire, à partir du moment où on se pose la question de pourquoi je me sens illégitime, ça ouvre plein, plein de boîtes de Pandore, tu vois. Ouais. Et ce n'est pas confortable du tout, mais c'est nécessaire pour se sentir mieux. Ça, voilà. Et c'est ce que j'ai constaté quand j'ai accompagné les filles que j'accompagne depuis 2 ans. On a fait ce travail progressivement. Alors, bien sûr, quand on est extérieur, c'est plus simple. Hein. On n'est pas dans la tête de la personne. Mais comme moi-même, je le fais actuellement, et je peux dire que franchement, c'est pas évident. Voilà, lancer une affaire, lancer un podcast, enfin, c'est pas facile psychologiquement. C'est pas vraiment les actions qui sont difficiles entre elles, en soi, quoi. C'est pas les actions qui sont difficiles. C'est le fait de se dire, bah, c'est moi qui le fais. Et entre ce qu'on imagine et la réalité, ben non, passer à l'acte, tu vois. Mais passer à l'acte tout doucement, tranquille. Il n'y a pas le feu, personne n'est là pour pointer à quelle heure vous avez commencé, à quelle heure vous avez fini. Ben voilà quoi.
Ouais, c'est vrai. Mais tu vois, c'est intéressant parce que tu dis ça, parce que j'ai fait un épisode. Alors, c'était début décembre où je parlais de mon histoire et justement, j'expliquais que cette année, elle avait été différente parce que j'étais beaucoup plus dans le être. Et j'ai arrêté d'être dans le faire, dans le avoir. Il faut que je fasse ci, il faut que je gagne tant, il faut que j'ai ci, il faut que j'ai ça. Ça me faisait faire un tas de choses pas forcément importantes, puisque dans la tête, ça n'allait pas. Donc, j'avais pas les bons résultats, finalement. J'avais pas, on va dire, des résultats à la hauteur de ce que je pouvais faire parce que, au niveau de ma personne, j'avais pas assez travaillé et que pour moi, c'était secondaire. Tu vois ce que je veux dire?
C'est ça. Et on a toujours cette pression du temps. C'est-à-dire... Ouais. Tu vois, le temps vite, 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 le temps il passe. Alors, c'est vrai qu'à partir d'un certain âge, on prend conscience du temps. Ça, c'est vrai que moi, quand j'ai eu 35 ans, là, j'ai eu mon 3e enfant et j'ai dit, ah, il y a le temps qui existe, vite. Si je veux faire quelque chose de ma vie, c'est tout de suite, là, maintenant, tu vois. Et cette pression du temps, elle est énorme. Alors que pendant 35 ans, j'ai jamais eu conscience de ça. Hein, je veux dire, mais sauf que pendant 35 ans, en fait, pendant tout ce temps, on n'a pas conscience de nous-mêmes. Forcément, on n'a pas conscience du temps qui passe, tu vois. Et puis, c'est intéressant ce que tu dis, parce que tu dis, on est dans le faire, on est dans l'avoir, etc., mais on n'est pas dans l'être. Mais parce que, pareil, je reviens toujours sur les mêmes origines, on est conditionné à ne pas être, tu vois. C'est-à-dire, quand tu regardes le système scolaire, il est fait pour quoi, le système scolaire? Est-ce que tu penses qu'un enfant de 8 heures jusqu'à 17 heures, il est capable d'apprendre réellement, tu vois, c'est pas possible. Enfin, je veux dire, voilà, on est bien d'accord. Ensuite, même les parents, tu sais, qui travaillent de, bon, donc 8h30, du coup, une fois qu'ils ont déposé à l'école, jusqu'à 19h le soir. Mais comment tu veux réfléchir à ta vie? En fait, c'est ça, tu vois, le truc, c'est que dans l'entrepreneuriat, t'es toi avec toi-même. Dans le salariat, tu réfléchis pas beaucoup. Parce que t'as pas le temps, en fait. T'es là, t'es dans tes tâches quotidiennes, t'es avec tes collègues, et puis t'as ton train-train qui t'empêche de réfléchir. Le week-end, c'est le ménage et les courses. Et puis voilà. Et puis, quand tu es entrepreneur, surtout sur le web, tu es là avec ton ordinateur toute la journée et tu es toute seule. Et ça, c'est dur, la solitude. Pas juste parce qu'on est tout seul, parce qu'on est avec nous-mêmes. Et ouais, voilà. Et du coup, en étant juste avec nous-mêmes, eh ben en fait, eh ben on paye toutes ces années où on n'a jamais pris le temps d'être avec nous-mêmes, en fait. Et là, le travail qu'on fait pas, on va le faire, en fait. C'est obligatoire. Et quand on devient entrepreneur, eh bien là, on crée quelque chose. Et là, travail de création, c'est même si c'est juste un article de blog, hein, ça fait ressortir en fait beaucoup de peurs. Ça fait ressortir toutes ces peurs. Mais faut les laisser venir en fait. Ces peurs-là, faut les laisser venir, faut libérer. Tu vois, faut laisser venir, libérer, pleure un bon petit coup, mais ça va, c'est bon. Là, tu auras passé une étape. Une fois que tes peurs seront arrive, eh ben tu dis, mais bon, pourquoi j'ai peur? Ok. C'est juste une peur. C'est vraiment que dans notre tête que ça se passe en plus. C'est même pas réel en fait. C'est ça. Et donc, c'est le combat, c'est nous avec nos perceptions. C'est nous avec notre imaginaire. C'est que ça le combat en fait. Et l'entrepreneuriat, c'est que ça. Parce que le client, lui, il s'en fiche. Hein, je veux dire, c'est soit il est intéressé par ton truc, il est pas intéressé, passe à autre chose. Je veux dire, il est pas là à réfléchir toute la journée. Ah bah tiens, Safia, qu'est-ce qu'elle a fait aujourd'hui? Voilà quoi. Il y a que toi qui es avec toi-même. Tu vois, je veux dire.
C'est ça.
Donc, prendre conscience de ça, en fait, rationaliser tout ça, ça permet quand même de dédramatiser, tu vois, de dédramatiser et puis aussi prendre plaisir dans d'autres choses. L'entrepreneuriat, le problème, c'est qu'on est seul, mais c'est très très stimulant, hein. C'est très stimulant, c'est intellectuellement vachement épanouissant et tout, mais faut pas rester focus que sur ça, je pense. Tu vois, si on veut vraiment se sentir bien, faut une vie équilibrée, tu vois, entre la vie privée et la vie pro. Et le truc, c'est qu'on se laisse très vite envahir, tu vois, par le boulot. Et que, voilà. Alors que non, il faut vraiment fixer des limites. Et cette autodiscipline, elle vient avec le temps. Hein. Je pense que, voilà, on est d'abord dans les extrêmes, puis ensuite on recalibre. Et puis, voilà, on se dit non, voilà ce qu'il me faut. Et la connaissance de soi, ça, c'est des zigzags. C'est des zigzags jusqu'à un moment où on trouve une espèce de routine, quoi.
Et écoute, tu as créé un freebie qui nous aide à surmonter le syndrome de l'imposteur. Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus?
Alors, c'est un freebie que j'ai mis en téléchargement suite à mon épisode 1 sur le syndrome d'imposteur. Donc, je propose 7 étapes pour comprendre d'abord le syndrome de l'imposteur et essayer de s'en sortir soi-même. Pourquoi? Parce que chaque personne est différente. Tu vois, moi, dans mes épisodes, j'essaye d'appliquer ce qu'on appelle la différenciation pédagogique, c'est-à-dire que chaque personne est différente. On peut pas, cibler un seul type de personne ou voilà. Donc, si chacun arrive à s'approprier en fait les schémas mentaux que je propose, et bien sûr, j'ai pas la science infuse, hein, donc je peux me tromper, je peux oublier en fait certains schémas qui ne sont pas, voilà, il y a des personnes peut-être qui vont pas se sentir concernées par ce que je vais dire. Et ce que j'applique vraiment ce que je recommande. Là, tu vois, là je me lance et je compte sur les retours, tu vois, je compte sur les retours des auditeurs, des auditrices pour pour m'aider en fait à avancer dans ce travail-là sur le syndrome de l'imposteur. Et ce freebie en fait, il reprend les 7 étapes de manière très détaillée. Et c'est des mini podcasts en fait que tu reçois par mail, donc sur une semaine en fait. Et à chaque fois, je propose un exercice et à chaque fois, je propose qu'on échange là-dessus. Parce que moi, c'est important pour moi de vérifier si ce que j'ai dans ma tête, c'est ce qui se passe dans la tête des gens, et je suis sûre que c'est pas le cas, en fait. Tu vois, c'est-à-dire où je vais avoir beaucoup de surprises, en fait. Et c'est ça qui m'intéresse. Tu vois, j'ai envie de savoir la différence entre ce qu'on pense et ce que pensent les gens. Tu vois? Et je pense que cette différence-là, c'est celle qui enrichit tout le monde. Parce que voilà, dans mon podcast, je vois ça comme un cerveau collectif. tu vois, c'est pas moi la maîtresse et puis les gens ils écoutent et puis voilà, non. C'est voilà, je pars des problèmes des gens, j'essaye d'apporter mon expertise parce que je suis passionnée de psychologie depuis toujours en fait. Et voilà, l'objet du podcast c'est ça, c'est un brainstorming géant quoi.
C'est un bon format, je trouve. C'est original.
Ben écoute, j'espère que ça va plaire et que ça va parler surtout, parce que l'objectif, c'est quand même de que tout le monde avance. Mais je suis sûre que je vais apprendre beaucoup plus que ce que je vais donner, quoi. Ça, j'en suis certaine. Et c'est ça qui me fait kiffer déjà en avance, quoi.
Mais ça, c'est la beauté aussi du podcast, c'est que t'as beaucoup plus de retours. Là, je suis sûre que je vais avoir plein de retours sur cet épisode-là, parce que tout ce que t'as dit, c'était genre « ouais, grave ». Tu vois ce que je veux dire? Genre, tu te dis, mais oui, tu tapes du poing sur la table et tu dis, mais oui, c'est vrai, c'est évident, il y a toutes ces choses-là que... Enfin, nous, on prend pas le temps de penser à tout ça, tu vois. On se dit, je suis dans ce problème-là, ma situation, c'est ça, il faut que je m'en sorte. Et on n'essaye pas de comprendre pourquoi on est là, en fait.
Je pense juste qu'on peut pas tout penser à tout seul. Tu vois, c'est-à-dire que quand on... C'est pour ça, d'où l'intérêt du brainstorming. On est un être humain et on a... une façon de percevoir les choses. Ou alors, de plusieurs façons, mais c'est très limité. Je veux dire, un être humain, il a un seul cerveau, il peut pas penser à tout, quoi. Tu vois? Et c'est pour ça que je pense que l'être humain, il est fait pour être en société. Et tu sais, ce podcast, c'est hallucinant. C'est vraiment le confinement qui m'a fait ressortir ce besoin social absolument viscéral, quoi. Tu vois? Ouais. Ah, ça, c'est, voilà, j'ai dit, mais c'est pas, en fait, j'avais jamais ressenti ça avant, hein. Et quand il y a eu ce confinement, j'ai dit, non, mais là, on veut me priver de mes pères, quoi, tu vois.
Ouais.
Et c'était viscéral. Et j'ai dit, non, là, je veux partager avec les autres et je veux savoir ce qu'ils pensent et je veux savoir comment ils se sentent. Et, j'ai eu mes premiers retours avec mes amis entrepreneurs qui disaient, mais non, mais fais ce truc. J'ai dit, mais attends, mais de quoi tu sais que j'étais partie sur un sujet complètement différent avant. Je devais faire du français juridique. Tu vois, je veux dire.
Ah oui.
Ah oui. Juste avant le podcast, et d'ailleurs le site, enfin voilà, tout était en ligne et tout. Et mes amis me disent, mais pourquoi tu pars sur un truc comme ça alors que t'as vu tout ce que t'as, enfin t'as vu tout, comment tu nous as aidés, etc. Et j'ai dit, mais arrête de me raconter n'importe quoi. Je fais ça naturellement. Mais justement, c'est parce que tu le fais naturellement que c'est bien. Et voilà, en fait, ce que ma vision à moi de la psychologie, c'est pas une vision universitaire. Tu vois, c'est une vision qui est très pragmatique. C'est-à-dire que moi, je pars de mes constatations à moi. Je pense que, en fait, tout ce qui est universitaire, c'est bon. On a tout ce qu'il faut. Donc, je veux dire, j'ai pas besoin de rajouter en plus, tu vois. Moi, ce que je veux, c'est parler, on va dire, vrai. Enfin, ce que je voudrais, c'est ça. C'est parler vrai avec les gens et que les gens me parlent avec leurs mots et qu'on essaye d'avancer comme ça. Et qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir bac plus 14 en psycho pour pouvoir aider les gens à aller mieux tous les jours, en fait, tu vois. Et que les gens aussi nous aident parce que quand tu donnes, à un moment, toi, tu vas pas être bien et à ce moment-là, tu vas récupérer, en fait, ce que t'as donné. Et c'est ça qui est magique chez les êtres humains quand on voit le potentiel bonheur qu'on peut en tirer, tu vois, voilà. Donc c'est vrai que c'est une vision assez optimiste, mais voilà, je suis comme ça, je suis une éternelle optimiste.
Ouais, c'est bien.
Mais en tout cas, voilà, c'est comme ça que je conçois ma relation avec les auditeurs, voilà, c'est comme ça que je la conçois, ouais.
Et du coup, est-ce qu'on peut te retrouver là, si à la fin de ce podcast, on a envie d'en savoir plus et de consommer plus de toutes ces bonnes choses que t'as à nous dire?
Eh ben écoute, sur Apple, enfin toutes les plateformes de podcast, donc Apple Podcast, enfin voilà, toutes les plateformes classiques. Mon podcast s'appelle Vocation Entrepreneur avec un E, et c'est un podcast qui s'adresse aux femmes, donc en psychologie de l'entrepreneur femme. Et j'explique pourquoi je m'adresse aux femmes spécifiquement. J'explique un peu mon parcours et j'explique un peu tout ce que j'ai envie de faire avec ce podcast-là. Donc, voilà.
Ça marche. Merci beaucoup, Ayette, pour toutes tes belles paroles.
Merci, Safia. C'était super sympa.
Plaisir partagé. J'espère que cet épisode sur le syndrome de l'imposteur vous aura plu et vous aura permis de remettre un peu les choses en perspective. Je vous mets le lien du freebie d'Ayette dans les notes de cet épisode si ça vous intéresse d'aller le télécharger. Vous pouvez également nous retrouver toutes les deux sur Instagram, alors moi à @bytrendylifestyle et Ayette à @mentalpreneur. Merci d'avoir écouté cet épisode de Build Yourself jusqu'à la fin. Vous retrouverez toutes les notes et ressources mentionnées sur le site mytrendylifestyle.fr. Et si vous souhaitez rejoindre une communauté d'entrepreneurs ambitieuses et déterminées, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook Communauté Build Yourself.
Deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.